Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts de Phil Hollywood, où nous nous intéresserons ensemble au cours de ce 36e épisode aux différentes approches possibles dans la représentation de la Shoah. Nous ferons pour ce faire l'analyse de trois films très différents traitant de ce même sujet. Tout d'abord, la liste de Schindler, réalisée en 1993 par Spielberg, puis Le Fils de Saul, paru en 2015 et réalisé par Laszlo Niemcz, et enfin le tout récent La Zone d'intérêt, par Jonathan Glazer, sorti en 2023.
Est-il possible de représenter la Shoah? Si oui, comment faut-il s'y prendre? En tant que réalisateur, quels éléments dois-je amener? Quel point de vue doit être utilisé? Voici des questions qui restent tout de même importantes à se poser pour un réalisateur de cinéma qui veut représenter la Shoah. Steven Spielberg, un producteur et scénariste américain, soutient l'idée que le génocide juif peut être représenté à travers une fiction. En ceci, il s'oppose profondément au scénariste Claude Lanzmann, qui lui souligne que l'Holocauste n'a pas besoin d'être dramatisé, il est un drame en soi, et cela nous suffit. Tout traitement artistique de l'Holocauste est ainsi condamné à l'échec. En dehors du documentaire, je ne vois pas ce qui peut être utile et juste. En 1993, La Liste de Schindler est réalisée par Spielberg en s'inspirant de faits réels. Le film narre l'histoire d'Oskar Schindler, un industriel allemand qui a parfaitement compris en 1939 que l'occupation de la Pologne pouvait lui procurer de réelles occasions de s'enrichir. Il prend donc la direction d'une fabrique d'articles de cuisine et devient le fournisseur de l'armée allemande. Tandis qu'il fréquente les nazis de Cracovie, dont la camaraderie est essentielle à ses affaires, il embauche, sur les conseils de son comptable Isaac Stern, des travailleurs juifs. Peu à peu, au contact des uns et des autres, il prend conscience de la barbarie du régime qu'il sert et de la terrible menace qui pèse sur ses ouvriers. Le collaborateur insouciant va brusquement basculer dans la résistance. Le tournage du film, au budget de 23 millions de dollars, commence le 24 février 1993 à Cracovie pour durer jusqu'en mai. De plus, il mobilise 30 000 figurants et nécessite l'usage de 18 000 costumes. Pendant la diffusion, nous pouvons noter des éléments cinématographiques très intéressants. Premièrement, le producteur a fait le choix d'un usage du noir et blanc tout au long du film. Ce qui n'est pas anodin, car derrière cela, il existe une portée symbolique, argumentée par Spielberg lorsqu'il dit « L'Holocauste était une vie sans lumière. Pour moi, la couleur est le symbole de la vie. C'est pourquoi un film sur l'Holocauste doit être en noir et en blanc. » En revanche, seule une petite fille est vêtue d'un manteau rouge. Elle marque l'élément déclencheur, la prise de conscience des atrocités génocidaires qui entourent le personnage principal. Notamment lors de la scène où la petite fille en rouge est au milieu des décombres de la guerre. À présent, nous aimerions aborder cette question. Comment est reçu le film par le public? Le film rencontre un grand succès, rapportant 321 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France, il attire plus de 2,6 millions de spectateurs en salle. Lors de sa diffusion à la télévision américaine, le dimanche 23 février 1997, le film rassemble une audience record de 65 millions de téléspectateurs. Pour conclure, La Liste de Schindler reçoit en outre 12 nominations aux Oscars pour en remporter 7. Dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur.
À présent, je vais vous parler d'une autre approche pour représenter la Shoah au cinéma, celle d'un film hongrois sorti en 2015 intitulé Le Fils de Saul. On y suit de très près le personnage central, Saul, prisonnier du camp d'Auschwitz-Birkenau. Durant quasiment l'intégralité de l'œuvre, la caméra est placée à l'épaule de Saul et ne montre nettement que son visage, l'arrière-plan étant constamment flou. Ce choix cinématographique inhabituel témoigne de la volonté de ne pas montrer explicitement la Shoah à travers des plans sur l'intérieur du camp. L'idée du réalisateur est plutôt de capturer l'essence de la Shoah par d'autres moyens. Tout d'abord, le fond flou permet au spectateur de percevoir et imaginer l'horreur du camp plutôt que de regarder une scène qui limiterait cette imagination. Saul est dans le film un membre des Sonderkommando, les prisonniers qui étaient chargés de nettoyer et de se débarrasser des corps des victimes après chaque gazage. Ainsi, on voit au début du film Saul circuler dans une chambre à gaz et on comprend qu'il y a les corps au sol. Le réalisateur a également recours au son pour représenter la Shoah. En effet, des bruitages et sons alentour jouent un rôle primordial dans le fils de Saul. Toujours dans la chambre à gaz, même si on ne peut pas clairement voir les corps étendus par terre, on entend les membres du Sonderkommando s'affairer dans la pièce, et notamment les traîner sur le sol. Plus tard dans le film, lors d'une scène particulièrement intense, les nazis exécutent des détenus dans une forêt la nuit et brûlent les corps. Même si on peut vaguement distinguer les flammes, c'est surtout le son qui marque le spectateur. On entend les cris, les tirs, le crépitement, les ordres hurlés en allemand, tous ces bruits créent l'atmosphère terrifiante et chaotique de cette séquence. À un autre moment, un détenu se fait sommairement exécuter et on entend le coup de feu sans avoir l'image. D'autre part, Saul est très souvent bousculé ou malmené, ce qui s'oppose au semblant d'ordre et à la propreté des SS. Or, il s'avère que sur le plan humain et éthique, c'est le contraire. Les nazis et leurs crimes représentent le désordre humain, à l'inverse de Saul, qui tente de préserver l'humanité en voulant enterrer dignement et selon la tradition juive, un garçon assassiné qu'il ne connaissait probablement pas du tout, mais qu'il considère comme son fils. Grâce aux moyens comme l'angle particulier, le floutage et le son, ainsi qu'aux messages véhiculés, le fils de Saul apporte donc une représentation inédite et unique de la Shoah au cinéma.
Intéressons-nous à présent à la toute récente œuvre de Jonathan Glazer sortie en 2023, La Zone d'intérêt, au cours de laquelle on suit la vie quotidienne et familiale du commandant nazi Rudolf Höss, habitant une grande maison à côté du camp d'Auschwitz en compagnie de sa femme Hedwige Höss et de leurs quatre enfants. Tout d'abord, l'histoire se déroule du point de vue des nazis plutôt que de celui des victimes, ce qui crée instantanément une atmosphère étrange et inhabituelle, et fait émerger de façon inévitable des enjeux et des questionnements indispensables quant au choix de la réalisation du film. C'est un parti pris lourd en signification et en responsabilité, et se présente la problématique de la représentation et de l'incarnation des personnages. Comment jouer un nazi de façon juste, de façon fidèle ? Mais il y a aussi d'autres champs pour lesquels s'appliquent avec la même rigueur ces questionnements. Ainsi, on peut premièrement remarquer le rôle des caméras. En effet, la quasi-totalité des plans sont fixes. La caméra est posée et ne nécessite aucun technicien pour suivre les mouvements des personnages ou des événements, chose qui permet une mise à distance entre ces derniers et le spectateur, et ainsi empêche une trop grande implication de la part de ceux-ci, ainsi qu'une quelconque empathie également. En effet, on a l'impression de les voir de loin, et on a beaucoup moins la possibilité d'entrer véritablement dans leur vie, puisque l'on ne bouge pas de notre place de simple spectateur qui se contente d'observer sans y prendre part, sans même s'en approcher. Bien évidemment, ce choix crée également une ambiance particulièrement troublante et désagréable, car crue et immobile, vide d'artifice, et où le spectateur se retrouve directement confronté à ce qui se passe, ce qui renforce le sentiment de malaise, voire de dégoût pour les actions et pour les paroles des personnages. Pour autant, un second élément que l'on peut aussi relever est la notion de la banalité du mal, inventée par Hannah Arendt, et qui est extrêmement présente dans le film et illustrée de façon appuyée afin d'insister dessus. En effet, les scènes banales de la vie quotidienne, communes à tout le monde et qui pourraient sembler sans grand intérêt, sont nombreuses dans le film. On voit les personnages dîner, aller se coucher, jardiner, les enfants jouer, etc. Et cela pourrait sembler ennuyeux et peut soulever des interrogations chez le spectateur. Mais c'est justement une façon de mettre en scène le fait que la famille E, c'est une famille banale, une famille comme n'importe laquelle, et qu'elle n'est en rien ou presque différente des autres. Le père est un fonctionnaire, la mère une femme au foyer, elle a des amis qu'elle invite chez elle, les enfants jouent entre eux, etc. Rien de plus normal. Et c'est justement en sachant les agissements de cette famille, en sachant la participation active dans la Shoah qu'elle a eue, que le spectateur se sent mal à l'aise, dérangé par cette familiarité et par la ressemblance et les points communs qu'il se trouve ou qu'il pourrait se trouver avec elle. Cela l'amène néanmoins à se questionner sur ce qui a poussé ces gens à agir de la sorte, à perdre leur humanité ainsi, et l'invite à se questionner lui-même face à cet avertissement sur la facilité à faire le mal, sur la banalité justement de celui-ci. C'est d'ailleurs quelque chose que Christian Friedel a confirmé dans une interview pour C'est à vous, où il explique qu'il est important de ne pas voir Rudolf Höss comme un criminel, ni comme un être trop différent de nous, et au contraire de se rendre compte qu'il nous ressemble plus que ce que l'on pourrait croire, qu'à certains moments, il pourrait être nous. À présent, on peut se pencher sur un autre aspect de la représentation de la Shoah, à savoir le fait que les camps de concentration ne sont jamais montrés à l'écran. On a par moments accès à des bribes, à des éléments de ces camps tels que la fumée noire qui s'échappe des fours, ou encore le barbelé, le haut des bâtiments, etc. Mais globalement, le spectateur ne voit rien de ces camps. Ici, on pourrait dire que Glazer respecte l'interdit sur la représentation et la fiction concernant la Shoah, établi par Lanzmann, puisqu'il n'impose aucune image de cette dernière et se concentre plutôt sur d'autres sens, l'ouïe principalement, qui joue un rôle très important dans l'illustration de l'horreur de la Shoah. De cette façon, l'imagination du spectateur est autorisée et même stimulée, puisqu'aucune image ne lui est imposée. Tout est suggéré. On entend par exemple des aboiements de chiens, des menaces et ordres de la part des nazis, et des hurlements de la part des déportés. Tous constituant des indices permettant de deviner la présence des camps sans jamais les apercevoir pleinement. De plus, le spectateur peut également le déceler grâce à certaines paroles, certains gestes des personnages, comme par exemple la scène avec Edwige et sa mère, où elle explique qu'elle a planté une vigne afin de masquer les bâtiments du camp qui restaient visibles par-delà la clôture. Ou encore celle où sa mère ferme la fenêtre de sa chambre en se bouchant le nez, à cause des mauvaises odeurs s'en échappant, très probablement dues à la crémation des corps. Par ailleurs, le seul moment où on voit clairement et vraiment le camp d'Auschwitz est la scène située vers la fin du film où des images réelles sont projetées, avec des femmes de ménage polonaises nettoyant les salles et les couloirs avant son ouverture, dans laquelle on voit l'amoncellement des chaussures, des cheveux, des valises, etc., appartenant aux déportés derrière les vitrines. Chose qui est horrible à voir et en dit suffisamment sur l'atrocité de la Shoah. Cela pourrait être une manière de dire que c'est difficile, sinon impossible, de faire de la fiction sur les camps, faisant ainsi à nouveau référence à Lanzmann. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine sur Phil Hollywood.